Henry James. Un portrait de femme. Chapitre 54. La seconde arrivée d'Isabelle à Garden Court passa plus inaperçue encore que la première. Ralph Tuchet entretenait une maisonnée modeste et Mrs. Osmond était inconnue des nouveaux domestiques. Aussi, au lieu de la mener droit à sa chambre, l'introduisit-on froidement dans le salon où elle demeura pendant qu'on allait l'annoncer à sa tante. Elle attendit longtemps. Mrs. Tuchet ne paraissait pas pressée de descendre. Isabelle finit par s'impatienter et se sentit quelque peu effarée, comme si les objets s'étaient mués autour d'elle en choses animées qui auraient salué sa gêne de grimaces grotesques. Il faisait gris et froid. L'ombre s'épaississait dans les angles des grandes pièces sombres. La maison était parfaitement muette et Isabelle reconnaissait ce silence qui avait pendant des jours rempli la demeure avant la mort de son oncle. Elle quitta le salon pour errer au hasard, entra dans la bibliothèque et la galerie de tableaux, où, dans le profond silence, son pas éveilla des échos. Rien n'était changé. Elle reconnaissait tout ce qu'elle eût pu croire quitter la veille. Elle enviait la sécurité de ces morceaux précieux qui ne bougent pas d'un cheveu et acquièrent un supplément de valeur pendant que leurs possesseurs perdent, pouce par pouce, jeunesse, bonheur, beauté. Elle s'aperçut qu'elle se comportait comme le faisait sa tante, le jour où elle était venue la voir à Albany. Elle avait bien changé depuis ce jour, d'où datait le commencement de tout. Elle s'avisa soudain que si sa tante Lydie n'était pas venue ce jour-là, de cette façon-là, et ne l'avait pas trouvée seule, tout eût pu être différent. Peut-être aurait-elle eu une autre existence, et eût-elle été une femme plus heureuse. Elle s'arrêta dans la galerie devant un petit tableau, à un charmant et précieux Bonington sur lequel ses yeux se posèrent longtemps. Mais elle ne regardait pas le tableau. Elle se demandait si elle eût épousé Caspar Goodwood, si sa tante n'était pas venue ce jour-là, à Albany. Mrs. Tuchet finit par arriver, au moment où Isabelle rentrait dans le grand salon désert. Elle avait sensiblement vieilli, mais son œil restait aussi brillant que jamais, et sa tête aussi droite. Ses lèvres minces semblaient un réceptacle de secrets inavoués. Elle portait une petite robe grise de la plus simple façon, et Isabelle se demanda, comme elle s'était demandé à leur première entrevue, si sa remarquable parente ressemblait plus à une reine régente ou à une surveillante de prison. Ses lèvres parurent bien minces sur la joue brûlante d'Isabelle. « Je vous ai fait attendre parce que je restais près de Ralph, » expliqua Mrs. Tuchet. « La garde était allée déjeuner et j'avais pris sa place. Ralph a un infirmier qui est censé veiller sur lui, mais c'est un propre à rien qui passe tout son temps à regarder par la fenêtre, comme s'il trouvait quelque chose à voir. Je ne voulais pas bouger parce que Ralph paraissait dormir et que j'avais peur de l'éveiller. J'ai attendu le retour de la garde, je savais que vous connaissiez la maison. Je m'aperçois que je la connais encore mieux que je ne le croyais. J'ai été partout, » répondit Isabelle. Puis elle demanda si Ralph dormait beaucoup. Il garde les yeux fermés sans bouger, mais je ne suis pas sûre qu'il dorme toujours. Est-ce qu'il pourra me recevoir et me parler ? Mrs. Tuchet ne se compromit pas. « Vous pourrez essayer, » se conta-t-elle de dire. Puis elle offrit à Isabelle de la mener à sa chambre. « Je croyais qu'on vous y avait conduite, mais je ne sais ce que font les domestiques. On a dû au moins y porter vos bagages. Je ne pense pas que vous en ayez apporté beaucoup. Cela importe peu, d'ailleurs. Je crois qu'on vous a donné la chambre que vous occupiez l'autre fois. Quand Ralph a su que vous alliez venir, il a recommandé qu'on vous mît dans celle-là. » « A-t-il dit autre chose ?»« Ah, ma chère, il ne bavarde plus comme autrefois, » s'écria Mrs. Tuchet, en précédant sa nièce sur l'escalier. C'était la même chambre. Et Isabelle eut l'impression que personne n'y avait couché depuis son passage. Son bagage s'y trouvait. Il n'était pas volumineux, et Mrs. Tuchet, qui s'était assise un moment, le considéra d'un œil critique. « N'y a-t-il vraiment aucun espoir ?» demanda notre jeune amie, debout devant sa tante. « Aucun. Il n'y en a jamais eu. Ce n'aura pas été une vie heureuse. »« Non, une belle vie seulement, » déclara Isabelle, que cette sécheresse irritait et portait à la contradiction. « Je ne sais ce que vous voulez dire, il n'y a pas de beauté sans force. Vous avez choisi un costume bien singulier pour voyager. » Isabelle regarda sa robe. « J'ai quitté Rome sans délai, j'ai pris la première robe venue. » « Vos sœurs en Amérique voulaient savoir comment vous vous habilliez. Cela paraissait être leur sujet d'intérêt principal. Je n'ai pas su le leur dire, mais elles semblaient avoir l'idée précise que vous ne portiez jamais rien de moins riche que du brocart noir. » « Elles me croient plus brillante que je ne le suis. J'ai peur de leur avouer la vérité. » « Lily m'a écrit que vous aviez dîné chez elle. »« Elle m'a invitée à 4 reprises et j'ai accepté une fois. Après la seconde invitation, elle aurait dû me laisser tranquille. Le dîner était très bon et a dû coûter fort cher. Son mari a de très mauvaises façons. Si j'ai pris plaisir à mon voyage d'Amérique, pourquoi y aurais-je pris plaisir? Ce n'est pas pour m'amuser que j'allais là-bas. » Malgré tout l'intérêt de ces nouvelles, Mrs. Tutchett quitta bientôt sa nièce qu'elle devait revoir une demi-heure après, au repas de midi. Les deux dames s'installèrent en face l'une de l'autre, à une table raccourcie, dans la salle à manger mélancolique. Isabelle ne fut pas longue à s'apercevoir que sa tante n'était pas aussi sèche qu'elle le paraissait, et sentit renaître en elle son apitoiement ancien pour l'impassibilité de la pauvre femme, son absence de regret et de déception. Indiscutablement, c'eût été, en un pareil jour, une bénédiction pour elle que de pouvoir éprouver un sentiment de défaite, d'erreur, même de honte. Elle se demandait si Mrs. Tutchett n'ignorait pas ces enrichissements de la conscience et n'y aspirait pas en secret, ne poursuivait pas quelque arrière-goût de la vie, quelques miettes du banquet, un témoignage de souffrance ou la froide diversion du remords. Par ailleurs, elle avait peut-être peur. Si elle se mettait à connaître un jour le remords, elle pourrait se laisser entraîner trop loin. Isabelle comprenait que sa tante s'était confusément aperçue qu'il lui manquait quelque chose et se voyait dans l'avenir sous les traits d'une vieille femme sans souvenir. Sa petite figure pincée en devenait tragique. Elle dit à Isabelle que Ralph n'avait pas encore bougé, mais qu'il serait probablement en état de la voir avant le dîner. Puis elle ajouta, un moment plus tard, qu'il avait reçu la veille Lord Warburton. Cette nouvelle fit légèrement tressaillir Isabelle, car elle semblait impliquer que ce personnage était dans les environs et qu'un hasard pouvait les mettre en face de l'un de l'autre. Un tel incident n'était pas à souhaiter. Isabelle n'était pas venue en Angleterre pour reprendre la lutte contre Lord Warburton. Elle n'en dit pas moins à sa tante qu'il avait fait montre d'une extrême bonté pour Ralph, comme elle avait pu s'en assurer à Rome. « Il a d'autres chats à fouetter maintenant, » riposta Mrs. Tutchett, en fixant sur sa nièce un regard en vrille. Isabelle comprit que ces paroles étaient grosses de sous-entendus, dont elle pénétra aussitôt le sens. Mais elle feignit de s'y méprendre, car son cœur battait plus vite, et elle voulait gagner un moment. « Ah oui, la chambre des lords et tout le reste. » « Il ne pense pas aux lords, il pense aux dames, ou du moins à une dame. Il a dit à Ralph qu'il était fiancé. »« Fiancé ?» s'écria Isabelle avec surprise, jusqu'à ce qu'il rompe son engagement. Il paraissait croire que Ralph serait heureux de cette nouvelle. Le pauvre Ralph ne pourra pas assister au mariage, bien qu'ils doivent se célébrer bientôt, je crois. « Et quelle est la fiancée ?»« Une jeune fille de l'aristocratie, Lady Flora, Lady Felicia, quelque chose comme cela. » « J'en suis bien contente, » dit Isabelle. « Il a dû se décider bien vite. »« Très vite, je crois. Il n'a pas fait sa cour plus de 3 semaines. On vient juste de rendre la chose officielle. »« Je suis bien contente, » répéta Isabelle, avec un redoublement d'emphase. Elle sentait que sa tante la regardait et cherchait sur son visage les marques de quelque affliction secrète, et le désir d'empêcher la vieille femme de voir rien de semblable l'aida à s'exprimer sur un ton de vive satisfaction et presque de soulagement. Mrs. Tutchett nourrissait évidemment l'opinion que les femmes, même mariées, tiennent pour une offense personnelle le mariage de leurs anciens soupirants. Le premier soin d'Isabelle fut donc de montrer que malgré l'universalité d'une pareille tradition, elle ne se sentait elle-même nullement offensée. Mais son cœur ne s'en accélérait pas moins, et si elle demeura un moment rêveuse, elle avait déjà oublié la curiosité de Mrs. Tutchett, ce ne fut pas parce qu'elle venait de perdre un admirateur. Son imagination, traversant la moitié de l'Europe, venait de s'arrêter, haletante et même un peu tremblante, en plein cœur de Rome. Elle s'entendait annoncer à son mari que Lord Warburton allait conduire une fiancée à l'hôtel et ne se rendait pas compte de la pâleur extrême de son visage au moment où elle faisait cet effort intellectuel. Mais elle sut se reprendre et dit à sa tante « Il fallait bien qu'il en arrive là un jour ou l'autre. » Mrs. Tutchett resta un moment silencieuse, puis hocha brusquement la tête. « Ah, ma chère, vous me dépassez !» s'écria-t-elle tout à coup. Le déjeuner se poursuivit en silence. Il semblait à Isabelle qu'elle venait de s'entendre annoncer la mort de Lord Warburton. Elle ne l'avait connu que comme prétendant, et maintenant c'en était fini de cette qualité. Il était mort pour la pauvre pensée. Pour penser, il aurait pu vivre. Un domestique tournait autour de la table, Mrs. Tutchett le pria de les laisser seuls. Elle avait achevé son repas et gardait les mains croisées sur le bord de la table. « J'aimerais vous poser 3 questions, » déclara-t-elle quand le domestique se fut retiré. « 3 questions, c'est beaucoup. Je ne puis me contenter de moins, j'y ai bien réfléchi. Ce sont des questions très sérieuses. »« Voilà précisément ce qui me fait peur. Les plus sérieuses sont les plus dangereuses, » répondit Isabelle. Mrs. Tutchett avait repoussé sa chaise et sa nièce, quittant la table pour se diriger d'un pas assez décidé vers une des fenêtres profondes, se sentit accompagnée par un regard inquisiteur. « Avez-vous jamais regretté de n'avoir pas épousé Lord Warburton ?» demanda Mrs. Touchett. Isabelle remua la tête d'un mouvement lent, mais sans raideur. « Non, ma chère tante. »« Parfait. Mieux vaut vous avouer que je veux croire ce que vous me direz. » « Votre confiance me soumet à une immense tentation, » répondit Isabelle sans cesser de sourire. « À une tentation de mensonge, je vous conseille de n'y pas céder, car lorsqu'on me trompe, je deviens dangereuse comme un rat empoisonné. Je n'ai pas l'intention de triompher à vos dépens. Est-ce que vous ne vous entendez plus avec votre mari ?»« C'est mon mari qui ne s'entend plus avec moi, » dit Isabelle. « Je le lui aurais prédit sans peine, et je n'appelle pas cela triompher à vos dépens, » fit Mrs. Touchett qui ajouta. « Aimez-vous encore Serena Merle ?» « Pas comme je l'aimais autrefois. Mais peu importe, puisqu'elle va partir pour l'Amérique. »« Pour l'Amérique, il faut qu'elle ait fait quelque chose de très mal. »« De très mal, oui. »« Puis-je demander de quoi il s'agit ?»« Elle a fait de moi son instrument. »« Ah !» s'écria Mrs. Touchett. « Elle en a agi de même avec moi. Elle le fait avec tout le monde. »« Elle le fera en Amérique, » fit Isabelle, qui retrouvait son sourire à la pensée que les questions de sa tante étaient achevées. Ce n'est pas avant le soir qu'elle put voir Ralph. Il avait somnolé toute la journée, ou était du moins resté sans conscience. Le docteur était à son chevet, mais se retira bientôt. Le médecin du pays, qui avait soigné le vieux Mr. Touchett et que Ralph aimait bien. Il s'intéressait vivement à son malade, et venait le voir 3 ou 4 fois par jour. Ralph avait fait appeler Sir Matthew Hope, mais s'était lassé de cet homme célèbre, et avait prié sa mère de lui annoncer sa mort, pour expliquer qu'il ne requérait plus de soins médicaux. Mrs. Touchett avait tout simplement écrit à Sir Matthew Hope qu'il ne plaisait pas à son fils. Le jour de l'arrivée d'Isabelle, Ralph, comme je l'ai dit, ne donna pas signe de vie de plusieurs heures, mais vers le soir il se souleva et dit qu'il savait qu'elle était venue. D'où lui venait cette notion, il eût été difficile de l'affirmer car, de peur de l'agiter, personne ne l'avait informé de l'événement. Isabelle entra dans sa chambre, confusément éclairée par la lumière masquée d'une seule bougie placée dans un coin de la pièce, et s'assit près de son lit. Elle donna congé à la garde, promettant de veiller elle-même le malade le reste de la soirée. Ralph, ouvrant les yeux, venait de la reconnaître et avait bougé la main qui gisait inerte sur le lit pour qu'elle pût la prendre. Mais il demeurait hors d'état de parler. Il referma les yeux et garda une immobilité totale, conservant seulement dans la sienne la main d'Isabelle. Elle resta longtemps près de lui, jusqu'au retour de la garde, sans qu'il eût fait un signe. Il aurait pu passer sous les yeux de sa cousine. Il avait déjà les traits et l'aspect de la mort. Elle l'avait cru très mal à Rome, et le retrouvait bien plus mal encore. Il n'y avait plus maintenant qu'un changement concevable. On lisait une étrange quiétude sur le visage qui était inerte comme un couvercle de boîte. Et au-dessous, il ne subsistait plus qu'un squelette. Quand Ralph ouvrit les yeux pour saluer Isabelle, elle crut plonger dans un insondable espace. La garde ne revint prendre sa place qu'à minuit, mais les heures n'avaient pas paru longues à Isabelle. C'était exactement pour cela qu'elle était là. Si elle était en effet simplement venue pour attendre, elle eut ample occasion d'exercer sa patience, car Ralph resta 3 jours dans une sorte de torpeur heureuse. Il la reconnaissait et semblait par moments disposé à parler, mais il n'en trouvait pas la force. Alors il refermait les yeux, comme s'il avait lui aussi attendu quelque chose qui ne pouvait manquer d'arriver. Il restait si parfaitement immobile qu'Isabelle croyait parfois que ce qui devait survenir était déjà arrivé, et cependant elle ne perdait jamais le sentiment qu'ils étaient encore ensemble. Mais il ne l'était pas toujours. Il y avait d'autres heures où elle errait par la maison vide et tendait l'oreille à une voix qui n'était pas celle du pauvre Ralph. Elle vivait dans une terreur constante. Elle croyait possible que son mari lui écrivît. Mais il gardait le silence, et elle ne reçut de lettre que de Florence, de la comtesse Gemini. Ralph, au soir du 3e jour, finit par retrouver la parole. « Je me sens mieux ce soir, » murmura-t-il soudain dans l'ombre muette de la chambre. « Je crois que je puis vous dire quelque chose. » Isabelle, tombant à genoux à son chevet, lui prit la main, le supplia de ne pas faire d'efforts, de ne pas se fatiguer. Le visage de Ralph était nécessairement grave, faute de pouvoir faire jouer ses muscles pour sourire, mais le mourant n'avait apparemment pas perdu le sens de l'ironie. « Qu'importe la fatigue, puisque je vais avoir l'éternité pour me reposer. Il n'y a pas de mal à faire un effort quand c'est le dernier. Les malades ne se sentent-ils pas toujours mieux juste avant la fin? Je l'ai souvent entendu dire, et c'est ce que j'attendais. Depuis que vous êtes ici, j'ai pensé que ce moment allait venir. J'ai essayé 2 ou 3 fois tant j'avais peur que vous vous lassiez de rester là. » Il parlait lentement, avec des cassures douloureuses et de longues pauses. Sa voix semblait venir de très loin. Quand il se tut, il garda le visage tourné vers Isabelle et plongea dans les siens ses yeux grands ouverts. « Il est très bon à vous d'être venu, » reprit-il. « Je l'espérais, sans en être certain. » »« Je n'en étais pas certaine moi-même avant de venir, » avoua Isabelle. « Vous avez été comme un ange près de mon lit. Vous savez qu'on parle de l'ange de la mort, c'est le plus beau de tous. Vous lui ressemblez, on dirait que vous m'attendez. » « Ce n'était pas votre mort que j'attendais, c'était ceci. Ceci n'est pas la mort, mon cher Ralph. » « Pas pour vous, non. Il n'y a rien qui nous fasse sentir plus vivants que de voir les autres mourir. C'est la sensation de la vie, la sensation que nous restons. Je l'ai éprouvée moi-même, et maintenant je ne suis plus bon qu'à la procurer aux autres. » Il se tut un moment, et Isabelle, courbant encore la tête, l'appuya sur les deux mains qui pressaient la sienne. Elle ne voyait plus son cousin, dont la voix lointaine parlait tout près de son oreille. « Isabelle, » reprit-il brusquement, « je voudrais que vous en ayez fini. » Elle ne répondit rien. Elle avait éclaté en sanglots et restait immobile, le visage caché. Ralph resta longtemps sans rien dire, écoutant les sanglots, puis finit par pousser un long gémissement. « Oh, qu'est-ce que vous avez fait pour moi ? Et vous ? « Qu'avez-vous fait pour moi ? » s'écria-t-elle, en réprimant à demi par son attitude son extrême agitation. Elle avait perdu toute honte, tout désir de dissimulation. Maintenant il fallait qu'il sût tout. Elle voulait qu'il sût tout car il s'en trouverait suprêmement rapproché, et il était déjà hors d'atteinte de la souffrance. « Vous avez fait une fois quelque chose, vous le savez. Oh Ralph, vous avez été tout. Qu'ai-je fait pour vous ? Que puis-je faire aujourd'hui ? Je mourrais si ma mort devait vous donner la vie. » Mais je ne souhaite pas que vous viviez. Je mourrais plutôt pour ne pas vous perdre. » Elle avait la voix aussi brisée que celle du mourant, pleine de larmes et d'angoisse. « Vous ne me perdrez pas. Vous me garderez. Vous me garderez dans votre cœur. Je serai plus près de vous que je ne l'ai jamais été. Chère Isabelle, la vie vaut mieux parce que, dans la vie, il y a l'amour. La mort est bonne, mais elle n'est pas l'amour. Je ne vous ai jamais remercié. Je n'ai jamais rien dit, je n'ai jamais été ce que j'aurais dû être, » reprit Isabelle. Elle éprouvait un désir passionné de crier sa peine, de s'accuser, de laisser sa douleur la posséder toute. Toutes ses angoisses pour le moment se résumaient en une seule et se confondaient avec cette peine unique. « Qu'avez-vous dû penser de moi ? Je n'ai jamais rien deviné, et si je sais aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens moins stupides que moi. » « Laissez donc les gens, » fit Ralph. « Je suis heureux d'en avoir fini avec eux. » Elle redressa la tête et leva ses mains jointes, comme si elle lui avait adressé une prière. « Est-ce vrai ? Est-ce vrai ? » demanda-t-elle. « Vrai que vous ayez été stupide ? Oh non !» répondit Ralph avec une intention manifeste. « Que vous m'ayez faite riche, que tout ce que je possède me vienne de vous. » Il détourna la tête et resta un moment sans rien dire. Puis enfin, « Ah ! Ne parlez pas de cela !» Cela n'a pas été heureux. » Il ramena doucement son visage vers elle, et leurs yeux se rencontrèrent de nouveau. « Sans cela, sans cela. » Puis après une pause, « Je vous ai ruiné, » gémit-il. Elle était toute à l'impression qu'il avait passé hors des atteintes de la douleur. Il semblait déjà si peu de ce monde. Mais même sans cette conviction, elle aurait encore parlé, car seule importait dorénavant la certitude dépourvue d'angoisse, la certitude qu'ils cherchaient ensemble la vérité. « C'est pour l'argent qu'il m'a épousée, » déclara-t-elle. Elle voulait tout dire maintenant, dans la crainte de le laisser mourir avant de l'avoir fait. Il la regarda un peu et pour la première fois, ses yeux fixes abaissèrent leurs paupières. Mais il les releva bientôt, puis « Il était très épris de vous, » répondit-il. « Oui. » Il m'aimait, mais il ne m'aurait pas épousée si j'avais été pauvre. Ce n'est pas vous faire mal que de vous dire cela. Comment le pourrais-je ? Je voudrais seulement que vous compreniez. Je me suis toujours efforcée de vous en empêcher, mais c'est fini maintenant. « J'ai toujours compris, » dit Ralph. « Je le savais et j'en étais confuse, mais maintenant j'en suis heureuse. » Vous ne me faites pas mal. Vous me rendez très heureux. » Et Ralph trouva pour prononcer ces mots un accent de joie extraordinaire. Isabelle courba de nouveau la tête et pressa ses lèvres sur le dos de la main de Ralph. « J'ai toujours compris, reprit-il, malgré ce qu'il y avait d'étrange et de si pitoyable dans la situation. Vous vouliez voir la vie par vous-même, et cela ne vous a pas été accordé. Vous avez été puni de ce désir, vous avez été broyé sous les meules de la Convention. » « Oh oui, j'ai été puni, » sanglota Isabelle. Il l'écouta un moment avant de poursuivre. « Est-ce qu'il a très mal pris ce voyage ?»« Il m'a rendu la décision très pénible, mais cela m'est égal. »« Tout est donc fini entre vous ?»« Oh non, je ne crois pas que rien soit fini. » »« Alors vous allez retourner vers lui ?» insista Ralph. « Je ne sais pas, je ne puis rien dire. Je resterai ici aussi longtemps que je le pourrai. » « Je ne veux pas penser, je n'ai pas besoin de penser, je ne me soucie que de vous, et cela me suffit pour l'instant. Cela durera encore un peu. Ici, à genoux, avec vous qui mourrez dans mes bras, je suis plus heureuse que je ne l'ai été depuis longtemps. Et je veux que vous soyez heureux, que vous ne pensiez à rien de triste, que vous vous contentiez de sentir que je suis près de vous et que je vous aime. Pourquoi auriez-vous de la peine? En des heures telles que celles-ci, qu'avons-nous à faire de la souffrance? La souffrance n'est pas ce qu'il y a de plus profond. Il y a quelque chose de plus profond qu'elle. » Ralph éprouvait évidemment de minute en minute plus de peine à parler. Il lui fallait attendre plus de temps pour maîtriser son énergie. Il parut ne pas répondre tout d'abord à ces derniers mots et laissa s'écouler un long moment. Puis il murmura simplement. « Il faudra que vous restiez ici. J'en serai heureuse aussi longtemps que cela sera bien. Bien, bien, » il répéta le mot. « Vous pensez beaucoup à ce qui est bien. »«
On y est bien obligé.
Vous êtes très là, fit Isabelle. »«
Très là, en effet. Vous venez de dire que la souffrance n'est pas la plus profonde des choses. »«
Non, certes, mais c'est quelque chose de très profond quand même. Si je pouvais rester... »«
Pour moi, vous serez toujours ici, » interrompit-elle doucement. Il était facile à interrompre. Il reprit après un moment.
« Cela passe. C'est passé maintenant. » Seul l'amour demeure. Je ne sais pourquoi l'on souffre tant. Je le saurais peut-être. Il y a tant de choses dans la vie. Vous êtes très jeune.
Je me sens très vieille, protesta Isabelle.
Vous redeviendrez jeune. C'est comme cela que je vous vois. Je ne crois pas. Je ne crois pas.
Il dut s'arrêter de nouveau. Ses forces lui manquaient. Elle le supplia de ne plus parler. Pas besoin de paroles entre nous pour nous comprendre, dit-elle.
« Je ne crois pas qu'une erreur généreuse comme la vôtre puisse compromettre plus qu'un moment de votre vie. »«
Oh, Ralph, je suis très heureuse maintenant, » cria-t-elle entre ses larmes.
« Souvenez-vous, » reprit-il, « que si l'on vous a détesté, on vous a aussi aimé. Aimé, ah, Isabelle, adoré, » soupira-t-il lentement et de façon à peine perceptible.
« Oh, mon frère, » s'écria-t-elle avec un geste de ferveur encore plus profonde.